Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, émission spéciale cette semaine. À l'occasion des 30 ans du Centre culturel suisse, nous sommes au cœur de Paris, dans le Marais, avec le public du Centre culturel suisse. Bonjour à tous. 30 ans pour le Centre culturel, 10 ans pour la librairie francophone et aujourd'hui un événement. La comédienne Catherine Allégret revient avec un très beau roman, une histoire familiale, poignante, un récit lumineux et on ne peut s'empêcher de penser à sa propre histoire de famille, à sa mère Simone Signoret, à son père adoptif Yves Montand, plein d'autres personnes. Bonjour Catherine Allégret.
Bonjour Emmanuel Perrin.
On va s'expliquer tout
S'il
à
vous
l'heure,
plaît.
Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un récit de famille, que les choses soient claires. Vous créez en tout cas la surprise en cette rentrée littéraire. Votre roman est très réussi. La sortie est prévue lundi. Nous vous le présentons en avant-première. Oui, c'est prévu lundi.
Ah.
Lundi. Ben oui, exactement.
Lundi, mais c'est ravioli, non?
Lundi, c'est ravioli. Merci pour cette avant-première, Catherine. Nous irons aussi à Détroit avec l'auteur suisse Alexandre Friedrich. Après avoir décrypté la société EasyJet, il publie un récit presque sociologique sur la ville américaine qui connut la gloire et la faillite. Et puis nous parlerons du dessin de presse avec Les étoiles souterraines, un gros livre dessiné de 500 pages, le reflet de 30 ans de création humoristique suisse. Frédéric Pajac est en plateau avec nous.
La librairie francophone. Emmanuel Guérad.
Avec nous, bien sûr, quatre libraires. Deux sont en multiplex et deux sont en plateau avec nous. Bonjour Nathalie Romanence.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Vous êtes libraire habituellement à Martigny, dans la librairie à Délivrez-moi.
Oui.
Merci d'être venu jusqu'à nous, donc ici au Centre culturel suisse. Tout va bien pour vous? Oui.
Oui, oui.
Oui, vous avez l'air en pleine forme. À côté de vous, juste à côté, c'est la première fois, c'est une première pour vous, c'est Grégoire Courtois, notre libraire français. Bonjour Grégoire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Auxerre, vous, en Bourgogne.
Absolument.
Voilà, vous représentez donc la France. La librairie Oblique, c'est votre librairie.
C'est ça, je suis content d'être à côté de Nathalie.
Ouais, bah oui, c'est bien.
C'est jamais le cas.
C'est ça les anniversaires, on ose des choses. Depuis le Canada, il y a une marmotte qui se prépare pour le grand froid. Bonjour Manon Trépanier.
Bonjour Emmanuel.
Ça va? Oui.
Oui, 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 je me sens plus comme une oursonne qui va bientôt hiberner.
C'est ça. Vous êtes libraire à Longueuil dans la librairie à lire et nous serons bientôt à Montréal au Salon du Livre pour fêter justement les 10 ans de l'émission. On vous en reparle très vite. Deux épisodes sur deux semaines consécutives. Un épisode en Amérique au Salon du Livre de Montréal et l'autre en Europe. Mystère, on vous tient au courant. Bonjour Annick Dor.
Bonheur.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique dans la librairie de la Mazarine à la Hulpe à côté de Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous tous les quatre. On commence cette émission avec une histoire racontée par l'un de nos invités, séquence un peu spéciale en l'honneur des 30 ans du Centre culturel suisse. Bonjour Olivier Kaiser.
Bonjour.
Tout va bien pour vous?
Magnifique.
Bon anniversaire déjà.
Merci, vous aussi.
30 ans, bah oui, 10 ans, on est tout petit en fait.
Vous ne
faites pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors Olivier, le Centre culturel suisse, ce sont des échanges. C'est ça le principe d'un centre culturel dans un autre pays?
Oui, c'est un lieu donc, qui appartient à la Fondation suisse Prolvesia. Et c'est le premier lieu qui a été instauré hors de Suisse en 1985.
Voilà, il y a aussi la Belgique, il y a un centre culturel, le centre Wallonie-Bruxelles.
Il y en a 53 à Paris.
Pas très loin, voilà, il y en a plein comme ça. La francophonie s'étend à travers le monde entier. Alors vous avez choisi une histoire liée à ce centre culturel, forcément, un moment fort, un moment étonnant que je découvre en même temps que tout le monde. Que voulez-vous transmettre, Olivier?
En fait, ça fait des mois que nous travaillons à la réalisation d'un grand livre. Ça sera 30 ans à Paris, donc sur l'histoire de ce centre culturel suisse. Et puis, la première exposition, c'était Peter Fischli, David Weiss, qui sont les artistes suisses les plus célèbres au monde. Et en fait, cette première exposition qui a lieu en 85, eh bien, n'est pas documentée par des photos. Donc on cherchait. Et puis, il y a un peu plus d'un an, je parle avec Peter Fischli et me dit « Ah, mais en fait, dans cette exposition, on a présenté une esquisse de Der Lauf der Dinge, qui est le film qu'ils ont fait connaître en 87 et qui a provoqué un succès mondial. » Et en fait, cette petite esquisse qui dure moins de 2 minutes a été présentée ici à 30 ans. Après, cette vidéo est devenue la vidéo la plus célèbre et la plus achetée en DVD dans le monde entier, faite par des artistes. Et en fait, puisque nous présentons actuellement Performance Process, donc cette grande manifestation dédiée à la performance, nous avons choisi de montrer ce film, donc l'esquisse et aussi le making-of de cette esquisse. Et nous invitons Peter Fishley en compagnie de Philippe Ken, le metteur en scène, pour parler en fait du cours des choses et de l'effet domino qui est une sorte de guide dans la vie.
Voilà, c'est ça la rencontre aussi, générer des choses comme ça.
Voilà,
c'est pour ça que vous travaillez ici. La librairie francophone est au Centre culturel suisse de Paris cette semaine. Bonjour Alexandre Friedrich.
Bonjour.
Vous êtes un auteur suisse que l'on soutient dans cette émission. On vous a connu avec votre premier livre, EasyJet, qui décryptait le système des compagnies aériennes à bas prix, low cost, comme on dit en anglais. Nous étions allés à l'aéroport de Genève pour tourner votre entretien. Vous vous souvenez de ce moment?
Oui, bien entendu. Ouais.
Avec les avions, voilà, dans le hangar.
Nous étions presque sur le tarmac à la fin de l'interview.
Avec la sécurité qui était un petit peu sur les dents. Cette fois, vous êtes parti à Détroit, ville en faillite, qui se redresse aujourd'hui, dit-on. Là encore, vous vouliez dénoncer l'échec d'un système capitaliste, c'était quoi le principe?
C'est une forme de plongée dans le temps, c'est-à-dire que quand on va à Détroit, on s'attend peut-être, et c'était une des thèses sous-jacentes, elle était à vérifier donc, on s'attend peut-être à découvrir ce qu'il adviendra de l'Europe dans quelques années. Autrement dit, c'est pas tellement rassurant. Et puis, de prime abord, lorsque je suis arrivé en ville, en effet, pour un Européen, c'est un choc.
Ouais, c'est très très sombre hein, au final. Vous avez un discours sur justement la faillite américaine à travers Détroit, la faillite européenne à venir, voilà, qui partage un peu nos libraires, nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que Détroit, c'est la ville référence de la réussite industrielle. Le boom automobile part de là.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments exceptionnels dans cette ville, des moments où l'argent circule, où bien sûr c'est l'industrie automobile, et puis les choses tournent mal, et aujourd'hui c'est une ville vidée de ses habitants, comme chacun sait, mais disons que l'idée était d'ajouter non pas des images, il y a beaucoup d'images sur cette ville, elle est largement documentée par les photographes, hein, mais plutôt de creuser un peu le sens et de voir ce que les gens qui y restent font au quotidien.
Alors, on va en parler évidemment en détail avec nos libraires. On va écouter notre nouvelle séquence qui croise les artistes et les écrivains entre eux aussi. Séquence surprise pour vous, Alexandre Friedrich, aujourd'hui. Chaque semaine, nous vous proposons une musique du monde habillée d'une voix. La voix d'aujourd'hui lit un extrait de votre livre, Alexandre. Et celui qui a accepté de lire sur notre plateau, c'est Laurent Godet. Bonjour Laurent.
Bonjour,
vous pouvez l'applaudir,
Daniel.
C'est notre invité surprise.
Merci.
Laurent Godet que l'on suit depuis des années, depuis son prix Goncourt en 2004. Nous, on a démarré en 2005 puisqu'on a 10 ans, mais voilà, on vous accompagne. C'est un auteur qu'on aime beaucoup, grand écrivain, grand auteur de pièces de théâtre aussi. Vous allez bien?
Très bien, je suis très heureux d'être là. Pour une fois que je viens décontracté et souriant, c'est bien.
Pourquoi pour une fois décontracté?
Parce qu'il y a toujours du stress, ben oui.
Bon, alors, vous allez lire un extrait d'Alexandre Friedrich, ce livre, Ford de Troyes, sur une musique d'un pilier du label Motown, créé à Détroit en 59, vous allez reconnaître, c'est le son du monde de la semaine.
Détroit est une ville étrangère. Elle est vaste, dure et déserte, incompréhensible, imprenable. Un pays machine, ceux qui tournent dans ses murs cherchent une issue, ils ne trouvent pas. Pris de vertige, ils tombent. Ils se couchent sur les trottoirs et dans les parcs, ils ferment les yeux, rien de ce qu'ils savent, rien. Il n'y a pas de secours. Et je ne parle pas des avenues, des rues, des carrefours, du découpage et des friches, mais d'un sentiment insidieux, puis envahissant, le sentiment d'être un corps sans esprit.
Laurent Godet avec un extrait de Fort Détroit d'Alexandre Friedrich sur une musique de Marvin Gaye, remixée par l'artiste norvégien Kygo. Vous êtes déjà allé à Détroit, Laurent ?
Non, pas encore. Non.
Bon, alors vous allez bien suivre l'entretien parce qu'il se passe des choses à Détroit. Détroit, la première grande ville américaine à se mettre en faillite le 18 juillet 2013 avec une dette de 18 milliards de dollars. Et pourtant, c'était la vitrine de l'industrie, pilier de l'automobile avec Ford, berceau culturel de la Motown qui révélera entre autres Marvin Gaye. Et puis, la musique électronique aussi doit beaucoup à Détroit. Et je passe Eminem, Stevie Wonder ou encore Madonna. Madonna qui était en concert d'ailleurs, je crois, il y a deux jours à Détroit. Alexandre Friedrich, Détroit, c'est le reflet de la fin d'une civilisation, le reflet de la mort de l'humanité à venir, comme vous dites ?
Les gens sont confrontés à des difficultés qu'on connaît, qui existent partout, qui sont, disons, accrues dans cette ville. Mais il y a évidemment une forme de laboratoire. Les gens les plus inquiets sont aussi ceux qui n'ont pas perdu tout espoir et qui font en sorte de trouver des solutions. Or, les solutions sont très lentes à venir. Et bien entendu, c'est une rengaine, on dit « voilà, ça va mieux ». Ce n'est pas exactement ce que j'ai vu.
Alors, vous déambulez effectivement dans cette ville à vélo, vous logez où vous pouvez et vous videz l'esprit comme ça dans une ville vide. C'est ce que vous racontez. Vous parlez aussi beaucoup d'Henry Ford qui a donné sa puissance à cette ville. Il lance en 1903 la première voiture de série.
Oui, et puis le thème de la machine est actuel à plusieurs titres puisque c'est la ville où on automatise les rapports sociaux, c'est la ville où on va fournir toutes les armes nécessaires à la reconquête de l'Europe.
Les tanks et les bombes, ouais,
exactement,
sont fabriqués là-bas.
C'est-à-dire cet élément de propagande, l'arsenal de la démocratie, Détroit, donc ville vedette de la liberté. Évidemment, aujourd'hui, on s'en doute, il ne reste pas grand-chose de ces grands moments de l'histoire. Et donc l'idée est de savoir quel avenir peut encore se construire là-bas.
Oui, parce que le monde entier a les yeux braqués sur Détroit à l'époque. Même le monstre Hitler, vous racontez qu'il avait un portrait affiché dans son bureau de Ford.
J'ai découvert ça, en effet. Henry Ford était une sorte de héros au début du régime nazi.
Ford a, selon vous, transformé les hommes. Il a créé ce que nous sommes tous devenus, des esclaves modernes et consentants, des consommateurs impulsifs. Ça part de là pour vous.
Il y a vraiment un phénomène d'égarement qu'on mesure mal ici. Au centre de Paris, on voit une certaine densité. Les gens sont rapides, joyeux, communicatifs.
Surtout dans ce quartier où est situé le centre culturel suisse, oui, qui est le quartier du Marais, très animé.
Là, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on est au milieu de ces grandes perspectives de ville américaine construite en quadrillage. Et au mieux, on a à vue, à quelques 100 mètres, une personne, parfois deux, très peu de voitures, ça aussi c'est original. Et donc le sentiment de vide est très grand et l'égarement porte non seulement sur les corps mais sur l'esprit.
On va entendre nos libraires, Alexandre Friedrich, Annick en Belgique. Comment avez-vous trouvé ce livre donc autour de Détroit, le récit d'Alexandre Friedrich?
Ben, c'est un livre particulier, hein, d'abord au niveau stylistique avec cette écriture très rapide. Ensuite, parce que ça ressemble un petit peu à une enquête, alors on se demande si c'est un reportage ou bien une réelle fiction. Alors pour ma part, bon, j'ai pas trouvé le livre transcendant, mais je trouve qu'il a le mérite d'exister, puisqu'il dresse un portrait complètement apocalyptique d'une ville post-industrielle.
Nathalie, pour la Suisse, vous êtes à côté d'Alexandre.
Oui. Moi, j'ai trouvé que le portrait que vous dressiez de Détroit était fort intéressant. Maintenant, ma visite a été un petit peu chaotique. Alors, chaotique parce que j'ai trouvé qu'il y avait une ruine au milieu de ces ruines, c'était le langage. C'est les conversations complètement décousues. Et puis, par moments, il y avait des petits instants de poésie. C'est complètement paradoxal. Après, je ne partage absolument pas votre vision apocalyptique. J'ose espérer que l'Europe a d'autres racines, d'autres ressources pour éviter cette faillite industrielle des âmes.
C'est vrai qu'il y a une sorte de décadence, Alexandre Friedrich, avec des moments poétiques, Nathalie le dit, mais aussi des dialogues comme ça, un petit peu étranges. Dans un bus, on se retrouve dans un bus à un moment avec vous, il y a des personnes qui ont chaud, alors ils essayent d'ouvrir les portes, on a l'impression que dehors il n'y a rien. Un peu comme dans les films américains, vous savez, les films de science-fiction où tout a disparu, voilà, la rue est déserte.
Et c'est l'envers du scénario hollywoodien. On a toujours l'impression que les répliques fusent, que les gens savent exactement ce qu'ils pensent. Là, ils pensent difficilement, ils parlent mal, ils parlent peu, ils ne parlent plus. Mais c'est la réalité.
D'ailleurs, vous racontez ces bâtiments que l'on brûle volontairement. Il y a des incendies préventifs. On sait combien de bâtiments sont à l'abandon à Détroit ?
Bien, quand on se promène, comme je l'ai fait dans un deuxième temps, j'ai essayé de le faire à pied d'abord, puis à vélo, on s'aperçoit en effet qu'il y a sur les parcelles des maisons qui se consument. Et ce qu'on apprend bientôt, c'est que les voisins, par mesure de précaution, boutent le feu à ces maisons pour éviter qu'elles deviennent des galeries pour le crack, enfin des lieux de rencontre à
développer,
des squats dangereux. Donc voilà.
Il y a le Los Angeles Times qui avait établi en 2013 78 000 bâtiments délaissés. 78 000, c'est incroyable. Grégoire, ah oui, il est où ? Il est là. Il s'est mis à côté de Catherine Allégret. Tiens, il a raison. Catherine, tiens, vous connaissez Détroit, vous ?
Non, mais j'ai suivi tout ça, j'ai vu des trucs à la télé, mais c'est là où ils ont arrêté même de payer les retraites et tout ça où c'est
je
le...
crois qu'il n'y a plus beaucoup d'argent plus qui rien, circule dans la ville.
C'est pire que la Grèce.
Ah non, mais
ça a été pire que la Grèce.
Et puis la Grèce, il fait beau. La Grèce, il fait
beau.
La misère est plus belle au soleil, vous savez bien.
Oui, c'est vrai, selon Charles Aznavour seulement.
Selon Charles Aznavour.
Grégoire, pour la France, allez-y.
On a les auteurs qu'on peut.
Quel est votre point de vue, Grégoire ?
Sur l'hiver à Détroit, je ne sais pas.
Sur le livre. Il faut suivre.
Sur le livre, moi, je le trouve très réussi.
Ils n'ont pas bu encore.
Ouais, contrairement à mes collègues, je le trouve très réussi parce que c'est vrai que je trouve que, notamment par la forme, parce que c'est une forme qu'on voit assez rarement dans la littérature francophone, je trouve que ce roman documentaire à la première personne, en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est un documentaire ? On est vraiment entre les deux. Moi, dans ma librairie, je l'ai mis dans les romans parce que pour moi, c'est de la littérature qui s'intéresse à un sujet. Donc, c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans ce livre.
On apprend plein de choses, c'est vrai, Alexandre Frédérich, on vous suit dans cette déambulation, ce documentaire avec aujourd'hui 680 000 habitants, je crois, alors qu'il y en avait 1 850 000
c'est
1950.
Voilà, on était à 2,5 millions, ouais. Ça dit un peu le rapport au bâti, c'est-à-dire que le bâti est important sur un domaine très vaste et les gens errent dans ce décor qui continue à péricliter malgré tout. C'est
oui,
ça qui est important.
C'est une ville qui a une histoire. Vous racontez que de l'autre côté de la rivière, il y a le Canada. Et qu'à l'époque de la prohibition aux États-Unis, il y avait des trafics qui tournaient autour de Détroit, entre le Canada et les USA.
C'est une ville frontière, en effet. Elle est contre les gros lacs. Le Canada s'ouvre de l'autre côté de la rive. Mais c'est surtout une ville frontière pour nous. Et c'est là que j'essaie de faire métaphore. Parce qu'elle indique jusqu'où on peut peut-être aller. J'entends dire qu'on est plutôt allé trop loin et que aujourd'hui on cherche des échappatoires. Voilà.
On va terminer avec une note positive, Alexandre. Vous êtes tombé sur une librairie là-bas à Détroit. Vous vous baladez et vous découvrez plutôt la plus grande librairie du monde.
Ouais, la plus grande librairie du monde d'occasion.
D'occasion.
Voilà, d'ancien, comme on dit.
Avec des livres en français au cinquième étage.
Cinq étages de livres empilés.
Cinq étages.
Impressionnant. Avec un système de classification évidemment compliqué qui se fait à la plume. Alors pas d'ordinateur dans cette immense librairie. Et une chose étonnante, c'est que le bâtiment ayant ses quatre façades dégagées, on le voit donc de très loin. Il a des fenêtres à tous les étages et à mesure qu'on approche, on s'aperçoit que toutes les fenêtres sont pleines de livres.
Ouais. Bon. Merci Alexandre Frédérich. Vous pouvez l'applaudir. Alexandre Frédérich, Fort Détroit, est paru chez Alia, un court récit parfois alambiqué, effectivement complexe, comme la ville de Détroit, un livre accessible à tous au prix d'un livre de poche. Laurent Godet, alors vous, les livres de poche, il y en a plein, parce que vous avez publié plein d'ouvrages, justement, votre œuvre est accessible à tous. On est en plein prix littéraire, là.
Ah non, ne me demandez aucune réaction.
Avez-vous un pronostic, par exemple, ou un candidat favori pour les prix là, en ce moment ?
Non, mais pour une raison très simple. D'abord, c'est que j'ai pas lu tous les livres de la rentrée, d'abord. Et ensuite, je me souviens, quand il s'agissait de rentrée littéraire à laquelle je participais, tous les pronostics faits en septembre s'avèrent faux. Donc, je me garderais bien de me lancer dans ce genre d'exercice. Ouais. Je souhaite bon courage à ceux qui y sont, mais voilà. Je peux vous offrir un petit cadeau ?
Allez-y, oui, volontiers. Allez.
On m'a parlé d'un anniversaire. Alors, pour fêter les 10 ans de la librairie francophone, je vous ai amené deux petits cadeaux. Et pour ne pas relancer la guerre entre la Suisse et la Belgique sur la qualité du chocolat, j'ai amené un de chaque. Je suis désolé, j'ai pas trouvé de chocolat québécois. Mais dans 10 ans, je ramènerai une petite boîte québécoise.
C'est gentil. Je suis très touché. Merci Laurent. Je vous embrasse. Merci. Les chocolats suisses avec les drapeaux et tout.
Bien sûr.
Fantastique. Bon, merci beaucoup. Vous étiez favori, vous, pour le prix Goncourt, pour terminer la conversation, pardonnez-moi.
Non,
quand vous l'avez eu, non,
non, en 2004, ni pour le Goncourt, ni pour le Goncourt des lycéens. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais vraiment.
Oui, il y en a deux.
Non, non, mais il y a toujours cette espèce de jeu. Franchement, pour répondre sérieusement, c'est dur pour les auteurs d'être dès le début septembre comme ça mis dans une position de course hippique où non mais
c'est vrai.
Et franchement la grande majorité des auteurs que je peux croiser, je pense qu'on est tous pareils, on n'écrit pas pour ça, on écrit parce que on a envie d'accoucher d'un livre, parce qu'on est tenu par cette chose-là, mais c'est vrai que le dispositif en France est fait pour qu'au bout d'un moment, au bout d'un mois, au bout de deux mois, si vous avez la chance d'être encore sur les listes, vous ne pouvez pas vous soustraire à cette pression-là. Elle est faite pour vous prendre d'une certaine manière. Donc, c'est des moments qu'il faut traverser avec un peu de philosophie, mais c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on le voit. Les magazines titrent sur les 2 ou 3 ou les 10 meilleurs romans de la rentrée. Je veux dire, il y a plus de 600 romans. Je pense qu'il y en a plus que 10 à lire et plus de 10 qui sont bons. Donc, il faut pas réduire tout à une espèce de tiercé gagnant. La littérature, c'est pas ça. Et je pense qu'il faut le redire.
Merci Laurent Godet. Laurent Godet, mesdames, messieurs. Merci d'être venu nous voir par amitié, juste par amitié. C'est ça la librairie francophone, un grand club francophone tous ensemble.
Et j'abuse encore de votre temps. Vive la francophonie. Juste une chose. On voit trop souvent, nous, en France, je crois, cette idée de francophonie comme une espèce de chose qui hériterait d'un empire que nous n'avons plus, fort heureusement. Je pense que pour reprendre une phrase de Mallarmé, que je trouve très belle, mais qui ne s'adapte pas à la francophonie, je le fais, moi, je crois que les langues françaises, la langue de Beyrouth, la langue de Montréal, la langue de Paris et la langue de Genève, s'éclairent de feu réciproque et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Moi, j'ai envie de lire et d'entendre parler la langue aussi d'Haïti, de Pointe-à-Pitre et d'Alger.
On est complètement d'accord. Laurent Godet, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Émission spéciale donc au Centre culturel suisse en public aujourd'hui. Nous allons parler dessin de presse avec Frédéric Pajac. Avant cela, voici le tout nouveau titre d'Eddie Mitchell. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Chanteur adulé, mafieux vénéré, acteur respecté, voire même oscarisé, crooner langoureux, buveur chanceux, joueur invétéré de casino en club privé. Il faut vivre vite, car la mort bientôt, c'est ta façon de voir, ta ligne de vie, ton credo. Et de Brooklyn à Vegas, tu passes et parfois tu casses. En bleu d'excès, tu chantes My Way. L'aspect politique te paraît magique. Dino et Sammy, Rat Pack, unis pour Kennedy. Et les femmes dans tout ça, Nancy, Ava, et d'autres aventures, amour, fêlure et puis blessure. Il faut vivre vite, car la mort bientôt. Ton parcours, toute ta vie, se résume en ces quelques mots. Et du ghetto au palace, partout tu es à ta place. N'oublie jamais, tu restes My Way. My way. Il faut vivre vite, à la mort bientôt. manque ces quelques mots. N'oublie jamais, jamais, tu restes ma way.
Eddie Mitchell, il faut vivre vite sur votre radio francophone publique.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Mais aussi pour l'Europe sur RTBF International, en Amérique sur la radio Sirius et en Haïti sur la radio publique haïtienne. Toutes les semaines, vous le savez, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vont vous présenter les livres dont on parle dans toutes les catégories. On commence dans le rayon des nouveautés avec la meilleure vente de la librairie de Nathalie Romanens qui est ici à Paris au Centre culturel suisse. Vous suivez ?
Et oui. Moi, je sais plus et où c'est je suis. Pas vraiment une surprise en fait cette meilleure vente parce que c'est le nouveau livre de Joël Dicker, le livre des Baltimore, aux éditions de Fallois. Alors, c'est un auteur qu'on attendait au tournant, vu le succès de son précédent livre. Eh bien là, il est tout aussi efficace. Dès les premières pages, on embarque complètement dans une trame familiale. On retrouve, bien sûr, Marcus Goldman, le fameux héros de la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Et cette fois-ci, on assiste à moindre rebondissement, mais on retrouve le talent de narrateur de l'auteur sans précédent.
C'est un peu la suite ou pas ?
Non, c'est pas la suite, ça n'a rien à voir.
D'accord.
C'est différent.
Bon.
C'est mieux.
C'est mieux.
C'est mieux, c'est plus travaillé. Alors, moi, j'ai juste envie de vous dire qu'on fait partie de ce clan des Baltimore du début à la fin et que quand on referme le livre, on est simplement orphelin.
De Joël Dicker, le livre des Baltimore aux éditions de Fallois. Merci beaucoup, Nathalie. Dans le rayon de la poésie, on part chez Manon Trépanier au Canada.
Et oui, et Emmanuel, je vous parle de Nicole Brossard qui nous offre un petit bijou là avec Tant qui installe les miroirs, c'est le titre. Et ce bijou, ben, il prend la forme de tercets très percutants. C'est un regard qu'elle porte sur le temps, celui de l'être inquiet, mais aussi celui de la joie réelle. Et c'est une œuvre qui comporte une dimension à la fois très très charnelle, mais à la fois aussi originelle et cosmogonique. En fait, c'est une réflexion sur les langages vibrants, les syllabes qui pépitent là dans l'obsession des mots. Il y a une œuvre de Martha Townsend qui vient agrémenter la couverture, ce qui fait un joyau dans un très joli écrin.
Nicole Brossard, Tant qui installe les miroirs aux éditions du Noroi. Merci Manon.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Frédéric Pajac est dans la librairie pour Les étoiles souterraines, paru aux éditions Noir sur Blanc. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes un fidèle de l'émission, vous aussi on vous a reçu plusieurs fois au cours de ces 10 ans. On vous connaît pour votre série Le Manifeste à certains, qui raconte de grands moments de l'histoire à travers des personnalités, des philosophes aussi. Prix Médicis de l'essai en 2014, prix Suisse de littérature en 2015. Il y a des dessins sublimes, vous êtes un dessinateur hors pair. Et le tome 4 d'ailleurs vient de sortir, Frédéric.
Oui.
Voilà. Donc c'est la suite, encore une fois.
Il y a 9 volumes.
Il y a 9 volumes, voilà. Vous tenez, hein, ça.
Oui, oui.
Ouais. Alors avec Mix et Remix, avec Noyau, vous formez une bande de Suisses agités dans les années 80, à la fin des années 80. Vous avez édité des journaux pour dessiner librement.
Oui.
Car vous êtes aussi dessinateur de presse.
De presse ou de non-presse. Si vous voulez, ce sont les journaux qui pourraient pas exister aujourd'hui. Ce sont les journaux qu'on a fait, souvent des journaux éphémères, qui ont été distribués de manière tout à fait différente que la plupart des journaux de presse. Par exemple, on a fait des journaux gratuits. On a fait des journaux gratuits à 120 000 exemplaires. On a
Good
fait
Boy, par exemple.
Good Boy, par ouais. exemple. On a fait. On a aussi fait des journaux. C'est vrai que ça a duré 30 ans cette histoire. En fait, moi, je suis tombé sur mes archives l'année passée, puis je me suis aperçu qu'on avait fait tout ça.
C'est fou.
Qu'on avait fait. Moi, j'ai dû faire une vingtaine de journaux comme éditeur. Mais des journaux qui n'ont jamais paru, c'est pour ça qu'on en a, on a mis quelques dessins ou des photographies de choses qui n'ont pas paru, donc de non-presse. C'est pour ça que je veux dire que c'est un peu de non-presse. Mais c'est aussi des peintures, c'est aussi des expositions qu'on a fait ensemble. Et puis sans jamais se dire qu'on était un groupe, qu'on allait faire quelque chose, réussir quelque chose.
Non, ça se fait naturellement, ouais, c'est voilà. ça. On le voit d'ailleurs dans ce livre, Les étoiles souterraines, un livre imprimé en Suisse, j'ai remarqué, bravo.
Mais il y a des imprimeries en Suisse.
Ben oui, non,
Qu'est-ce que vous croyez?
C'est pas ce que je voulais dire, Catherine Allégret. Ce que je veux dire, c'est que généralement, on exporte comme ça, et c'est bien de rester dans un pays de la francophonie. On défend la francophonie. Alors, imprimé en Suisse. puisse vous retracer ces 30 ans. Alors, vous lancez La Nuit, premier grand hebdo satirique suisse, quasiment. Vous créez aussi L'Imbécile de Paris.
Après, ça, j'ai fait en France, celui-là.
En France, voilà. Oui. Après une altercation avec Jean Edernalier.
Oui,
parce à l'Idiot International.
J'étais dessinateur à l'Idiot International. Et puis, j'étais pas d'accord avec lui.
Tiens. À cause d'un papier un peu antisémite.
Oui.
Ouais. Et alors, vous montez un journal, du coup, en réaction.
J'ai fait L'Imbécile de Paris, qui était, en fait, j'appelais Jean Edernalier L'Imbécile de Paris.
Oui, oui,
donc
ça.
J'ai fait le journal qui s'appelait L'Imbécile. D'ailleurs, il était assez content que j'ai fait ça.
Ouais. Vous étiez complètement fou à l'époque. Vous racontez ces séances, ces réunions où les uns hurlaient, noyaux hurlaient, pleuraient, enfin.
Oui, c'était.
Vous buviez de l'alcool, vous n'arriviez pas à travailler.
C'est comme ça les journaux. C'est moi, je fais plutôt des livres aujourd'hui, mais les journaux, c'est voilà. Quand j'ai fait L'Imbécile, par exemple, il y a L'Imbécile de Paris, je veux dire, il y a plus de 100 personnes qui participent. C'est énorme. Et quand j'ai fait le journal, le dernier que j'ai fait, c'est 9 semaines avant l'élection. 8 semaines, 7 semaines, 6 semaines, 5 semaines. Donc c'était un journal éphémère, volontairement éphémère, sur les dernières élections présidentielles. Et en fait, le but de ce journal, c'était de ne pas parler des élections. Et de ne pas parler des partis politiques, et sans être pour autant un journal d'abstentionnistes. Mais par exemple, dans cette expérience de 9 semaines, il y a plus de 100 personnes qui ont aussi participé, des écrivains, des philosophes, des dessinateurs, des poètes. Voilà, c'était un journal comme
un collectif. Voilà, vous avez créé
qui était distribué,
collectif.
Qui était distribué dans les kiosques en France en Suisse. Ouais.
Avec un sacré succès, c'est
et
incroyable.
En Belgique, ouais.
Nathalie, pour la Suisse, que voulez-vous dire à Frédéric Pajac? Vous avez lu ce livre énorme que j'ai sur la table, qui est une masse absolue, 500 pages.
Alors, bon, moi, je veux simplement lui dire que, sans minimiser le talent du trio des étoiles souterraines, c'est très facile d'avoir un regard alternatif sur la politique suisse en ce moment, vu qu'elle est tellement mortifère. Mais j'avoue qu'en plongeant dans ce livre, j'ai été surtout émerveillée, c'est par la liberté qui s'en dégage. Et puis, j'étais complètement épatée, c'est par votre part d'inconscient, de courage aussi, parce que vous n'avez jamais peur de vous planter. Au contraire, on dirait que l'échec, c'est toujours là pour se réinventer. Je trouve que c'est un excellent exemple pour la jeunesse en ce moment. Et puis, votre esprit de liberté, bon, il manque cruellement aussi. Et là, je pense aussi bien aux médias qu'aux politiciens.
Frédéric Pajac.
Ben, je dirais que le courage, c'est après coup qu'on se demande si on a eu du courage. Mais on est surtout très inconscient et on n'a pas de plan de carrière, on n'a pas de plan financier, on n'a pas de boîte de communication. On a fait les choses, mais vraiment dans une insouciance totale, quoi.
Avez-vous l'impression d'avoir plus ou moins de liberté aujourd'hui? Parce que c'est vrai que vos dessins, il y en a plein qui sont dans l'esprit de Charlie Hebdo. On sait tout
quelques
ce qui
gens,
s'est passé.
Oui,
il y en a
gens,
un, par exemple, que j'ai relevé avec un nouveau look pour les mosquées, où vous dessinez une mosquée sponsorisée par des logos de McDonald's, si je me souviens bien, et de Coca-Cola. Et on a un fœtus d'une femme voilée, enceinte, qui est grignotée, mangée, salement, par Mickey.
Par l'Amérique.
Par l'Amérique. C'est très osé. Est-ce que vous êtes plus de liberté aujourd'hui ou moins?
Je ne sais pas si un dessin comme ça pourrait passer, en tout cas dans Je ne sais pas, oui, il y a des journaux pour ça. Il y a Charlie Hebdo, quoi. Mais Le Canard Enchaîné, par exemple, il ne passerait jamais un dessin comme ça. Et non, il n'y a pas tellement de place que ça. On a beaucoup parlé, évidemment, après les massacres de Charlie Hebdo. On a beaucoup parlé de ce journal qu'on ne lisait plus, que plus personne ne lisait. Mais cette liberté, je dirais qu'elle est vraiment confinée dans quelques titres, quoi. Elle est marginale, elle est totalement marginale.
Vous auriez envie de monter un nouveau journal aujourd'hui?
Ah bah bien sûr.
Oui. Ah oui?
Oui.
Moi, je veux bien venir faire la cuisine.
Catherine Allègre. La cuisine. Vous leur ferez des petits plats aussi, des recettes.
C'est ça.
Ça fera un journal complet. Merci beaucoup, Frédéric Pajac. Vous restez bien sûr avec nous. Ce beau livre, Les étoiles souterraines, signé Mix et Remix, Noyau et vous, donc, est paru aux éditions Noir sur Blanc. C'est un coup de cœur de notre équipe à voir absolument en librairie. Félicitations, Frédéric. Vous êtes un immense dessinateur. Faut voir votre travail, oui.
Et puis, Anna Sommer.
Exact. Anna Sommer qui coordonne un petit peu le collectif. Merci, Frédéric. Dans cette plus grande librairie du monde, on se sert dans les rayons des beaux livres. En Belgique, Annick Dor, vous avez la tête dans les nuages.
Oui, c'est le cas de le dire, c'est vrai, Emmanuel. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai choisi de vous parler du catalogue de l'exposition qui se tient actuellement au Château du Reux en Belgique. Et donc, c'est une exposition, en effet, qui a pour thème les nuages. Alors, en anglais, clouds, d'où le titre de ce beau livre. Ils sont présentés 50 œuvres d'une trentaine d'artistes, dont Magritte, Jean Harpe, Paul Bury, mais aussi des contemporains comme le très talentueux Chimamanda Ngozi
ou le sculpteur catalan Jaume Plensa. Alors les nuages, sous toutes leurs formes, toutes les dimensions, du plus réaliste au plus onirique, l'occasion voilà d'une jolie balade parmi ses peintures, ses photographies, ses sculptures, ses installations, ses vidéos, enfin il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts et ça s'appelle Clouds aux éditions Actes Sud. Merci Annick pour la catégorie des livres jeunesse. C'est la France qui vous conseille un livre. Grégoire Courtois.
Oui, moi je vais vous parler d'un livre et puis aussi d'une très belle collection qui s'appelle Pont des Arts aux éditions de l'Élan Vert. C'est une collection qui s'intéresse à une œuvre d'un artiste moderne, contemporain, et on donne ça à un illustrateur et à un auteur et ils font une petite fiction, un petit livre pour enfants, un petit album. Donc là en l'occurrence, celui dont je vais vous parler, c'est La Perruche et la Sirène. Donc c'est une œuvre de Matisse et c'est une très belle œuvre qui a été mise en image par Vanessa Yé et en mots par Véronique Masneau. Et on rencontre effectivement cette perruche et cette sirène qui vont vivre une aventure tout à fait bouleversante.
Et c'est aux éditions L'Élan Vert. Ouais, joli livre.
Exactement, oui, c'est très beau et c'est très instructif.
Très quoi ?
Instructif.
Merci Grégoire. Catherine Allégret me surveille. Le Centre culturel suisse de Paris a 30 ans. Alors, on danse ici avec le public. Voici le tube francophone de la semaine sur les ondes de Radio-Canada, de la RTS, de la RTBF et de Radio France.
La librairie francophone, 10 ans.
Alors, on danse. Alors, on danse. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Et bien encore. le belge Stromae. Alors on danse sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Vous le savez, dans cette émission, nous défendons les libraires indépendants, les auteurs, mais aussi les libraires indépendants. Et on a appris cette semaine les difficultés des librairies au Québec. Manon Trépanier, vous êtes avec nous, vous avez évidemment suivi cette affaire. Les librairies qui sont en difficulté, les librairies indépendantes qui s'en sortent un petit peu mieux que les autres, mais il y a de fortes baisses en ce moment.
Oui, mais je dirais, Emmanuel, qu'en regardant les chiffres, on s'en sort beaucoup mieux que les autres. Et je pense que ça tient, en fait, ces chiffres-là, qui paraissent de prime abord très alarmants, bien, ils tiennent compte, entre autres, des manuels scolaires, et ils tiennent compte aussi de la diminution des ventes dans les chaînes de librairie. Puis on se rappellera là, que dans les chaînes de librairie, il y a eu quand même un litige important qui a opposé un distributeur à la chaîne de librairie pendant le moment où les chiffres ont été saisis. Et ce qui fait, dans le fond, que les librairies indépendantes s'en tirent beaucoup mieux, vous savez, il n'y a pas eu de méga succès. Je pense à des Harry Potter, par exemple, ouais, choses comme ça. Si dans les grandes surfaces, on tient 100 titres, pas de méga succès, ça va pas très bien.
Ah oui, d'accord.
Tandis que dans les chaînes de librairie, ben nous, on sait vendre, on peut proposer autre chose, et puis voilà.
Oui. Alors, effectivement, c'est vrai que ça tient beaucoup au succès, hein, au grand succès. Plus il y a de livres qui font parler d'eux, et mieux c'est pour les libraires, et les émissions de radio, les émissions de télé sont aussi là pour ça. Merci beaucoup, Manon. On suit, en tout cas, votre actualité là-bas au Québec. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, il y a des difficultés. La librairie La Licorne à Bruxelles a de grosses difficultés en ce moment. On espère que ça ira mieux pour eux très prochainement, et on vous tiendra bien sûr au courant.
La librairie francophone.
Imaginez un seul instant un individu qui perde vraiment la mémoire, mais toute mémoire, eh bien il tomberait par terre et bougerait plus. Il ne bougerait plus. Il ne bougerait plus. Imaginez par ailleurs quelqu'un qui n'oublierait rien, rien. Eh bien, il serait pareil, il serait complètement fossilisé.
Emmanuel Kérad.
Première étape des 10 ans de la librairie francophone ici au Centre culturel suisse pour les 30 ans du centre avec Alexandre Friedrich, Frédéric Pajac et Catherine Allégré. Alors Catherine, vous publiez Les Pierres Blanches aux éditions Fayard. Le livre sort lundi en Europe. Vous nous le présentez en avant-première. C'est une histoire de famille très émouvante, bouleversante, mais lumineuse. Quelle énergie avez-vous mise dans ce roman? Où avez-vous puisé cette force, Catherine? Dans votre histoire ou pas?
Non, pas du tout. Lisa, mon héroïne, n'a strictement rien à voir avec moi. Maintenant, les lieux dans lesquels elle évolue sont des lieux que je connais, que j'aime et dans lesquels j'ai vécu. Bien servir un peu de ses petits bagages quand même.
Oui.
Après ça, je sais pas, j'avais envie de... Je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé, donc j'ai un rapport assez particulier aux maisons... à leurs ondes, à leurs pierres,
aux lieux. Ouais, ouais.
Et j'ai eu aussi tendance à croire que quand on y avait beaucoup de chagrin ou beaucoup de soucis, ça s'arrangerait en déménageant. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que quand on quitte un lieu, bah, on emmène sa maison sur son dos, comme les escargots. Après quoi, bon, bah, je sais pas. Comme je suis pas un écrivain professionnel, ça n'est que mon deuxième roman, je suis, peut-être qu'ils sont tous comme ça, si ça se trouve. Il faudrait que je demande. Laurent est parti, c'est dommage. Mais moi, je me fais avoir par mes personnages. C'est eux qui me font des niches et ils m'embarquent.
Ouais, mais en même temps, c'est vrai que ce que vous racontez là, par rapport à votre vie, c'est ce qu'on lit dans le livre. Vous avez dû vivre des situations assez proches de Lisa, même si évidemment, ça n'a
non,
rien à voir avec votre
sauf
histoire.
Sauf dans la ferme, on a, mais voilà, dans en les accouchant lieux, des vaches ou en faisant des choses comme ça, qui sont tout à fait... on dit vélé, d'ailleurs, quand on parle le français correctement. Et voilà. Mais ça, c'est des trucs que j'ai fait, c'est vrai. Grandvaux, en Suisse, je connais. Lausanne, je connais. Je sais que Madame Vianne Martini, je connais.
C'est parce que le livre se passe en Suisse, hein, il faut savoir.
Aussi.
La toile de fond, c'est en Suisse et aussi les montagnes alentours. Alors, Lisa a été abandonnée par sa mère, née d'un père qui ne la reconnaît pas. Elle va devoir se créer sa propre famille, du moins intégrer une famille qui peut l'adopter, même tardivement. Pour se créer une identité, Catherine Allégré, on a besoin d'un cocon familial.
On a besoin de repères, en tout cas. Et elle les trouve effectivement dans cette famille qui n'est pas la sienne et qui sont des gens qui ont aussi leurs douleurs. Et je crois que les douleurs sont souvent complémentaires et qu'il y a cette grand-mère magnifique qui régimente tout son petit monde et qui réussit à guérir et à faire guérir les gens. Je crois que c'est assez communicatif quand même.
Vous écrivez, au fond, enfin en tout cas c'est Lisa qui dit, au fond j'ai beaucoup de chance qu'elle soit partie ma mère. C'est la seule chose qu'elle ait faite de bien, parce que grâce à elle, je vous ai vous. Maintenant, c'est moi
qui ne veut plus la voir. C'est ça. Jamais.
C'est ça.
Ouais. C'est terrible, ça.
Bah oui, mais c'est... Vous savez, les liens d'amour ne sont pas forcément les liens du sang. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'aimer énormément ma mère, d'aimer énormément mon père, mon beau-père, et puis d'aimer aussi énormément ma tante, qui était dans le même immeuble et qui fait que je ne suis pas devenue complètement tarée quand j'avais des chagrins d'enfant, parce qu'elle était là avec son mari et mon cousin, et ça, c'est aussi des liens... C'était des Italiens, d'ailleurs. Donc,
le frère d'Yves Montand, en fait, qui avait emménagé chez Yves Montand.
Enfin, pas chez, dans le même immeuble.
Dans le même immeuble.
Oui, ma mère avait collecté comme ça les appartements en louant dans l'immeuble... Et j'ai grandi, j'ai une vraie vie de famille. Alors c'est marrant parce que j'avais le folklore avec les artistes, ma maman et mon tante, et puis j'avais la vie de famille avec Tati, Tonton et Jean-Louis, et ça m'a pas mal équilibré quand même.
Lisa, c'est vrai qu'elle n'arrive pas à aimer non plus, avec tout ce qu'elle a vécu. On va pas tout raconter parce que l'histoire se tient très bien. On a vraiment envie de tourner les pages et de connaître la suite, Catherine Allégret. Mais c'est vrai que cette Lisa, elle a tendance à fuir quand on l'aime trop. Elle dit « Partir, c'est ma façon à moi de vous aimer ». Pensez-vous qu'un traumatisme lié à l'enfance, lié à un abandon maternel, entrave la possibilité de construire une relation ?
Ou possiblement, c'est-à-dire que dans le cas de Lisa, il y a les gens qui réparent et puis il y a ceux qui répètent. Et peut-être qu'elle a quelque part enfoui dans le fond de son subconscient le désir de casser ses jouets. Parce que tout est trop beau, tout est trop lisse, tout est trop formidable quand même dans sa vie de petite fille abandonnée. Elle a eu du bol quand même, mais les autres, ils ont lutté chèrement pour la gagner parce que elle est pas facile, la petite Lisa. Contrairement à moi qui suis un délice. c'est pour ça que ce personnage n'a rien à voir avec moi.
J'ai toujours été un délice.
J'ai toujours été délicieux.
Mes parents m'adoraient.
Mes parents m'adoraient, c'est
oui,
vrai.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais à un point extrême parce que vous étiez magnifique.
C'est ça.
On s'invente une vie comme elle quand une situation familiale n'est pas claire, parce qu'elle s'invente des vies.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que sa mère soit partie avec un monsieur très très riche et très loin, donc il faut que cette petite quand même suive des études. Et ils ont une très très bonne idée, c'est de la faire admettre dans un collège suisse qui pourrait être l'école internationale de Genève, par exemple, qui est pas cité, mais ça y ressemble. Au lieu de la laisser à Pontarlier dans le Jura avec cette nourrice au milieu des veaux, des vaches, et puis grandir avec des enfants normaux, pas riches, enfin de son milieu.
Ouais, du coup, elle est décalée.
Elle débarque, ce qu'on pourrait dire un peu vulgairement, chez les riches, qui racontent les enfants qui sont tous délicieux, mais ils ont tous des trucs fabuleux à raconter, des voyages, des Noëls, des machins. Et elle est rien qu'une gamine qui a grandi à la campagne, quoi. C'est une petite paysanne. Donc elle est un peu mytho, mais bon.
On va laisser la place à nos libraires à travers la francophonie, Catherine Allégret, des libraires qui sont très critiques, vous le savez.
Oh là oui, j'ai entendu tout à l'heure.
On va écouter.
Je sais pas si je vais pas regretter d'être venue finalement.
Je suis là, vous inquiétez pas.
Merci Emmanuel.
Manon, pour le Canada, je crois justement que vous avez un avis un petit peu mitigé. Tout petit peu.
Oui, malgré le fait que j'ai adoré le personnage principal, Emmanuel, la jeune fille mythomane, j'ai lu de grands passages d'une seule traite, moi, toute la première partie. Je vous dirais que où j'ai un peu décroché, c'est à partir du moment où la jeune fille devient adulte, mais dans l'ensemble, là, ça reste un roman de lecture très, très agréable qui va plaire, je pense, à de nombreux lecteurs.
Grégoire, pour la France, vous êtes à peu près d'accord?
À peu près, oui. Moi, c'est vrai que j'ai eu du mal avec Lisa adulte, de son côté mélancolique, etc., mais qui fait partie du roman, effectivement. Donc, au début, j'ai eu un petit peu
mélancolique,
peur.
Vous.
Non, je suis jamais mélancolique.
Oui, c'est ça, ça vient de
absolument
là.
Pas. Je suis très joyeux. Absolument. Et donc, de fait, j'ai eu un peu peur au début du roman, mais en fait, on se fait vite embarquer, effectivement, par cette petite, comme l'a dit Manon, et c'est un récit qui est très bien tenu. Et moi aussi, comme peut-être Emmanuel, j'ai eu un peu de mal à faire abstraction de la personne derrière la plume. Et là, parce qu'il vous a posé quelques questions à ce sujet.
Oui, j'aurais bien aimé publier sous un pseudo. J'ai pas eu le droit.
Ah oui. Pourquoi?
Bah parce que ça plaît pas aux éditeurs quand s'appelle Schmutz, quand on s'appelle Allégret. Bah je sais rien, c'est possible. Mais c'est un de mes rêves, je vous jure. Je peut-être qu'un jour si je réussis à écrire un troisième roman, autre où ça va, c'est pas sûr. je publie un très beau pseudo en plus que je me garde comme ça.
On vous retrouvera, Catherine.
Peut-être, Marc.
Avec votre voix en plus, faites pas de radio parce qu'on vous reconnaît même dans votre voix.
Non, mais j'enverrai quelqu'un.
J'enverrai quelqu'un. Ça marchera pas ça. Annick pour la Belgique, qu'en pensez-vous?
Ben oui, c'est une lecture qui est plutôt agréable, même si, c'est vrai, moi, j'ai pas eu beaucoup de surprises, donc je suis passée un petit peu à côté, mais c'est vrai que je doute pas qu'il y ait un public pour apprécier ce roman qui est, somme toute, énergique. Et voilà, parce que derrière les difficultés de la vie, finalement, ce personnage parvient à se construire une vie plutôt riche. Donc, voilà.
Il y a une forme de culpabilité, Catherine Allégret, dans ce livre. Lisa ressent une certaine culpabilité, même si elle n'y est pour rien dans son drame familial. À quel moment surgit la culpabilité pour vous ?
Pour moi ?
Ouais, qu'est-ce qui la génère, cette culpabilité ?
De Lisa, vous voulez dire ?
Ouais, un peu pour vous aussi.
Ah, mais attendez, c'est moi ou c'est elle ?
Bah, je sais pas, comme vous voulez.
Ah bon ?
Il y a un peu des deux.
Il faudrait
être clair, oui.
Parce que la culpabilité de Lisa, c'est quoi ? Vous pensez qu'elle se sent coupable de quoi ?
Bah, par rapport à sa mère. C'est difficile.
Non,
quand
parce
même,
qu'on n'arrête pas de lui dire c'est ta mère quand même.
Ouais, c'est ça.
Devient un leitmotiv.
Ouais, mais on sent qu'il y a quelque chose. C'est très difficile de faire le deuil de sa mère par défaut. C'est ce qu'elle fait. Le pire pour elle, justement, c'est que sa mère ressurgisse.
Ah oui, c'est-à-dire qu'elle arrive à un moment où elle a vraiment plus besoin d'elle.
Ouais. Pourquoi c'est ingérable à ce moment-là, ça ? Quand la mère ou le père ressurgit alors
mais
qu'il n'a jamais été
que
là.
Parce que quand on récupère des mères sous forme de débris, alors que quand elles étaient jeunes et vaillantes, elles avaient tout loisir de s'occuper de vous et de vous récupérer, on n'a pas envie de renverser, enfin Lisa, j'imagine, c'est pour ça que moi, j'aurais pas eu envie. Ma mère aurait déboulé dans ma vie, dans l'état dans lequel déboule cette malheureuse Colette. Franchement, je c'est peut-être ma mère, mais alors je m'en fous totalement, hein. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais alors, aucune compassion pour la mère, non, pas pour celle-là, aucune.
Vous auriez pu ne pas pardonner, vous, par exemple ?
Ah non, mais attendez, moi, je suis capable de ne pas pardonner. Ah oui, je peux ne pas pardonner, parfois. C'est très rare, mais je peux.
C'est le cas ? Vous avez eu des cas ?
Vous voulez que je vous raconte ma vie ?
Non.
Ah bon ? Oui, j'ai des cas où je ne pardonne pas. Il y a des trucs que je ne peux pas pardonner. Mais pas beaucoup.
Non.
Mais gravement, quand même.
Vous avez l'air ému en parlant d'ailleurs.
Oui, il y a des gens que je ne pardonnerai pas certaines choses, c'est sûr.
En tout cas, on est très ému en lisant votre livre,
Merci,
Catherine Allégret.
C'est gentil.
Vous allez pleurer forcément en lisant ce livre.
Voilà. Pas dire ça.
Vous êtes comme Grégoire, vous êtes trop positif, jamais mélancolique. Ça ne prendra pas sur vous. C'est un livre magnifique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Libar, je vous le dis. Voilà, Catherine, j'ai adoré votre livre.
C'est gentil.
Je l'ai lu
merci.
Avec grand plaisir.
Je reviendrai alors.
Bah, j'espère bien, avec un autre nom et une autre voix.
Voilà.
Merci Catherine. Les Pierres Blanches est paru aux éditions Fayard. Une belle surprise de cette rentrée littéraire. Impossible de rester insensible. On se laisse envahir par les émotions. Merci Catherine. Je sais que c'est la première fois. Enfin, je sais, forcément, parce que je vous invite pour la première fois voilà. Que vous faites l'émission. Je sais, vous m'avez dit tout à l'heure, vous écoutez. Donc voilà, je suis ravie.
Oui, la vôtre, je l'écoute.
De vous avoir accueilli. Pour les 10 ans, ça tombe bien finalement.
Ben voilà. Alors,
on se retrouve.
Oh non, pas dans 10 ans, ce ne serait pas raisonnable.
Moi, j'aurai 20 ans, tout va bien.
Ben voilà.
Merci Catherine.
À peine 40.
À très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone. Chaque semaine, en fin d'émission, nous vous faisons découvrir un jeune artiste issu de la francophonie. Voici la chanteuse suisse Pony avec un extrait de L'amour argent. La chanteuse suisse Pony que vous pouvez retrouver sur internet, sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur la librairiefrancophone.com et je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour communiquer avec vous. Merci beaucoup au public du Centre culturel suisse. Merci à vous. À très bientôt, je l'espère. Bon anniversaire au Centre culturel suisse. À la réalisation, Serge Gandon avec Patrice Klein et Étienne Leroy. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Le Putain en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Sorge Chalandon, Emmanuel Pirotte, Pef et Anne Goscinny seront avec nous. Très bonne semaine. À bientôt. Salut.